Sans toi, nous ne sommes que poussière. Sans toi, nous ne sommes que vanité. Sans toi, nous ne sommes que chair. Et la chair est appelée à la corruption. Nous voulons, Seigneur, ce qui vient d'en haut. Nous voulons, Seigneur, ce qui donne la vie. Nous voulons, Seigneur, ce qui est éternel. Nous voulons, Seigneur, ce qui demeure. Loin de nous les rudiments du monde, loin de nous les choses du monde, loin de nous les artifices du monde. Père, c'est toi que nous voulons, c'est ton esprit que nous voulons, Seigneur, que ton esprit descende sur ce lieu, Seigneur, et que ta parole soit le centre de notre culte, cette parole par laquelle nous pourrons vivre. Seigneur Jésus, parle-toi, que l'homme disparaisse, que Jésus paraisse, et que ta parole, Seigneur, soit puissante. Au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de frères qui ont beaucoup travaillé ici. Mais j'aimerais aussi mentionner à cette heure tous les anciens de cette église. Je ne les remercie pas pour moi-même, non. Parce que ce n'est pas pour moi qu'ils ont travaillé. Ce n'est pas pour moi qu'ils ont travaillé. Et chacun de ceux qui sont ici, ce n'est pas pour moi qu'ils ont travaillé. Qu'ils ont chanté, qu'ils ont conduit, qu'ils ont gardé la ligne de la doctrine, de la parole de Dieu. Mais c'est pour le Seigneur. Mais c'est toujours un plaisir, une récompense lorsque un semeur voit le fruit de ce qu'il a semé. C'est toujours une récompense et une joie lorsque un semeur peut contempler son champ et voir le fruit. Ce n'est pas le semeur qui a fait le fruit. Ce n'est pas le semeur qui a donné la vie dans la plante. Ce n'est pas le semeur qui a fait tout ce travail. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, le semeur? Il n'a fait que de labourer. Et là, il a souffert, il a transpiré. C'est pas vrai? Ensuite, il a jeté la semence et il a attendu. Mais il est heureux lorsqu'il voit le fruit. La semence a été plantée dans un bon sol. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, revenir à la borne, prêcher de nouveau à la borne. C'est quelque chose de spécial et je me disais, mais que vas-tu prêcher? Dimanche dernier, nous étions à Bruxelles, dans l'église de notre fille et de notre beau-fils. Et alors, ma fille me pose la question, qu'est-ce que tu vas prêcher à la borne? J'avais quelque chose dans mon cœur. Est-ce que quelque chose est resté? Le voici. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 27, une lecture un peu longue, à partir du verset 21. Vous savez, frères et sœurs, que la base principale de cette église, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas voulu bâtir sur aucun rudiment du monde, sur aucun principe de la philosophie des hommes, sur aucune mode ou manifestation humaine. Mais nous croyons dans l'inspiration de la parole de Dieu et nous croyons que la parole de Dieu est au-dessus de tout, est au-dessus des hommes, est au-dessus des pratiques, quelles qu'elles soient. Et si cette parole de Dieu est annoncée dans sa vérité et dans toute sa puissance, Dieu fera ce qu'il a promis qu'il fera. Aucun homme n'a besoin d'essayer de fabriquer et de provoquer et de manipuler pour faire ce que Dieu a promis. Dieu est assez grand pour faire ce qu'il a promis. Je n'ai pas besoin de le fabriquer. Alléluia. Que la chair se retire et que Dieu se montre. Que l'homme se retire et que Dieu se montre. C'est lui que nous voulons voir. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 21 du chapitre 27 des Actes des Apôtres. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit, « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Un ange du Seigneur, à qui j'appartiens, et rend un culte, s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une île quelconque. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent l'approche de quelque terre. Ils jetèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils la jetèrent à nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils jetèrent 4 ancres de la poupe. Ils souhaitaient la venue du jour. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, elle laissait glisser la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixer plus loin des ancres. Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant la venue du jour, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous exhorte donc à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut et personne de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, de bon cœur, tous prirent de la nourriture. Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout, 276. Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour parut, ils ne reconnurent pas la terre, mais aperçurent un golfe avec son rivage et résolurent d'y pousser le navire si possible. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils tombèrent sur un banc de sable entre deux courants et laissèrent échouer le bateau. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il donna l'ordre à ceux qui pouvaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de le faire, soit sur des planches, soit sur quelques débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Voilà une belle histoire, voilà une longue histoire. Paul le grand apôtre, Paul le grand missionnaire, qui a parcouru toute l'Asie mineure et une grande partie de l'Europe, il est à la fin de sa vie, il est à la fin de son ministère. Lorsqu'un ministère arrive à sa fin, pour un homme, c'est aussi la fin de sa vie, car le ministère continue jusqu'à la fin de la vie. Il n'y a pas de retraite pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de retraite pour le prédicateur de l'Évangile qui a été appelé par le Seigneur. Fin du ministère, c'est fin de la vie. À moins que le péché vienne entre deux, et que le péché alors détruise le ministère. Et nous en voyons dans le monde aujourd'hui qui ont détruit leur ministère à cause du péché. Mais lorsqu'un homme marche avec Dieu, son ministère continue jusqu'à son dernier souffle. Paul est à la fin de sa vie. Il arrive au bout de la course. Mais au lieu d'être reconnu, au lieu d'être accepté, au lieu d'être honoré, au lieu d'être récompensé, non, le voilà prisonnier. Le voilà prisonnier, envoyé à Rome pour comparaître devant César, accusé qu'il est, Paul, accusé par ses frères, accusé par ceux auxquels il a annoncé l'Évangile, accusé par ceux qui ont refusé son message, qui ont accepté une partie de son message, mais qui ne veulent pas en accepter la discipline, qui ne veulent pas en accepter le chemin. Nous voyons cette même tragédie qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. La parole de Dieu est prêchée, c'est vrai, et il y en a qui sont très enthousiasmés par la prédication de cette parole et de ses vérités. Mais étant donné qu'ils ne veulent pas obéir et se soumettre à la discipline de cette parole, ils en prennent une partie et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle, dans le monde d'aujourd'hui, il y a tant de désordre dans ce qu'on appelle Église. Oui, c'est vrai, le messager de la bonne nouvelle, celui qui veut cette discipline de la parole et cette obéissance de la parole, ne sera pas toujours accepté. Et il n'en a pas été ainsi pour Paul, ni pour Jésus, du reste. Ce sont les religieux qui l'ont crucifié. Il est sur ce bateau avec d'autres prisonniers. Paul, le héros de la foi. Paul, le prédicateur de la délivrance. Paul, qui a ouvert tant d'églises à travers l'Asie mineure, l'Europe, qui a souffert, qui a été lapidé, qui a combattu contre les bêtes, qui a été fouetté, qui a été jeté mis en prison à cause de sa foi. Il n'a pas failli. Et encore, dans les derniers jours de son ministère, il ne faillira pas jusqu'au bout. Merci Seigneur pour cet exemple. Ma maison n'est pas ici-bas, semble dire Paul. Mon royaume, ma place n'est pas ici-bas. Il est à l'image de son maître. Son maître disait, mon royaume n'est pas ici-bas. De même, celui qui suit ses traces, il n'est que passager. Passager. Il est embarqué avec d'autres prisonniers sur ce bateau qui s'en va en Italie. La saison est déjà avancée. Elle n'est pas propice à la navigation à la voile. On n'avait pas de moteur à cette époque-là. On faisait de grands bateaux avec des immenses voiles et on se laissait pousser par les vents favorables. Et c'est ainsi que la saison n'est pas favorable car les vents sont contraires. Et la navigation devient même dangereuse. C'est avec peine qu'ils sont arrivés à Beauport, est-il dit, près de la ville de Lassé, sur l'île de Crète. Ils se concertent les uns et les autres. Le centenier, le pilote, le capitaine du navire sont d'avis de continuer le voyage, car, disent-ils, il n'est pas convenable de passer l'hiver à ce port. Les accommodations, les places, peut-être les hôtels, que sais-je, ne sont pas tellement agréables. Et les gens du monde aiment l'atmosphère du monde, et peut-être que ce n'était pas une ambiance qui leur plaisait. Quelles étaient leurs motivations ? Nous ne savons. Toujours est-il qu'ils ont dit, allons, essayons d'aller dans cette autre ville. Nous pourrons passer les mois d'hiver, 2-3 mois, en attendant les saisons meilleures pour continuer notre voyage. Mais Paul, le prisonnier, Paul avertit. Paul leur dit, la navigation sera dangereuse. La navigation ne se fera pas sans péril, attention et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Attention, ne partons pas. La saison est trop avancée. Nous avons voyagé que lentement depuis la Palestine à cause des vents contraires. La saison est avancée. Nous avons déjà passé la saison du jeûne. Le jeûne d'Israël, de Yom Kippour. Mais qui va écouter les conseils d'un prisonnier? Oui, c'est vrai, d'un prisonnier, mais un prisonnier différent des autres. Différent. Inspiré. Éclairé. Par le Saint-Esprit. Pas prisonnier de César, non, mais prisonnier de Jésus-Christ. Pour eux, c'est un prisonnier de César, mais pour lui, non. Esclave de Jésus-Christ. Esclave de Christ, c'est être véritablement libre. Au service de Christ. De même aujourd'hui, qui va écouter les esclaves de Jésus-Christ? De même aujourd'hui, qui va écouter les conseils d'un homme de Dieu? Les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit crient à travers l'espace, crient à travers le monde et avertissent les hommes. Attention, la saison est avancée. Attention, les vents ne sont pas favorables. Attention, dans quelle direction vous allez-vous vous diriger? Mais qui écoute le prédicateur? Qui écoute celui qui annonce la parole de Dieu? Qui écoute celui qui crie? Un petit peuple, un petit peuple. Les hommes essayent de construire pour eux-mêmes des bateaux pour traverser les océans de la vie. Ils essayent. Car ils veulent arriver sains et saufs de l'autre côté. Tout homme ne sont que des voyageurs sur cette terre. Tout homme ne sont que des passagers dans ce monde. Il y a un autre côté où on doit arriver. Il y a un autre côté. Tout le monde a la pensée de l'éternité dans son cœur. Il y a un point d'arrivée et on veut y arriver. Saint et sauf. Les hommes essayent de se bâtir des navires pour arriver de l'autre côté. Regardez, Regardez ces nombreuses religions dans ce monde. Ne cherchent-elles pas à amener les hommes de l'autre côté? Regardez toutes ces philosophies qui parcourent notre monde, ces idéaux philosophiques ou politiques. Regardez tant de bateaux que les hommes lancent sur l'océan de la vie pour faire traverser les hommes, pour faire traverser les masses de l'autre côté. Ils vous promettent, monts et merveilles, ils vous promettent un meilleur avenir, ils vous promettent la prospérité, ils vous promettent tant de choses. Quand le soleil est là, tout va bien. Mais le soleil ne brille pas toujours. L'homme cherche la sécurité. L'homme cherche la prospérité. Il cherche la stabilité, pas vrai? Alors, pour arriver à ses fins, on se fabrique ses propres moyens pour y parvenir. Chacun selon sa propre pensée. Il y a des bateaux qui portent le nom de bonnes œuvres, d'autres de morale élevée, d'autres de charité, d'autres de humanisme, d'autres de philosophie. D'autres, ils portent le nom de culture et éducation. D'autres d'ascétisme, d'autres encore de politique et autres. Tant de bateaux, tant de navires, tant d'idéaux politiques ou philosophiques ou religieux. Regardez ces bateaux lancés sur l'océan de ce monde. Des millions et des millions d'hommes et de femmes cherchent à trouver ce qu'il leur faut pour traverser l'océan de la vie. Quand le soleil est là, tout va bien. Quand le vent est propice, il gonfle les voiles. On est là, on festoie et on se réjouit. On est là, sur le bateau, et on s'amuse. Tout va bien. Mais, ne voyez-vous pas aujourd'hui ces navires sombrer les uns après les autres? Ouvrez vos yeux! Ce grand navire qui faisait trembler le monde entier, ce grand navire qui effrayait tous les pays du monde, appelé communisme, il sombre. Les hommes essayent de racoler les morceaux, ils prennent les débris qui sortent de partout, ils s'accrochent et ils les remettent ensemble et ils y mettent un autre nom et ils essayent de continuer le voyage. Mais combien de cadavres derrière. Je parle du communisme, mais est-ce que nous avons trouvé la solution? Je parle du communisme, de ce grand bateau, parce qu'il est tellement évident. Mais est-ce que ce bateau de la démocratie est meilleur? Ne craque-t-il pas de partout lui aussi? Hommes, femmes, nous avons besoin de quelque chose de meilleur. S'il vous plaît, soyez intelligents de l'intelligence d'en haut. Ces navires, ils sont en débandade. Ces navires, ils sont en débandade, cassés, brisés, les vagues s'élèvent de partout. Écoutez-moi bien, il faut plus qu'une meilleure moralité. Il faut plus qu'une meilleure religion pour traverser cet océan. Il faut plus qu'un meilleur féticheur pour traverser cet océan. Il faut plus qu'un meilleur devin. Il faut plus qu'un meilleur marabout pour traverser cet océan. Il faut plus qu'un meilleur médium pour traverser cet océan. Il faut un navire solide. Regardez, Dieu avait dit à Noé, tu te feras une arche. Et il lui a donné la dimension. Elle sera de 150 mètres de long. Elle sera de 25 mètres de large. Elle sera de 15 mètres de haut. Il lui dit comment il doit la faire à l'intérieur. Il lui donne tous les détails. C'était un engin flottant. Ce n'était pas un bateau avec une voile. Ce n'était pas un bateau avec un moteur, mais un engin flottant pour sauver l'humanité. Les ingénieurs nous disent aujourd'hui, les ingénieurs maritimes et autres nous disent aujourd'hui que les dimensions de ce bateau, de cette arche, étaient absolument idéales. Idéales pour une résistance maximale aux tempêtes les plus fortes. Ah, c'est pas un homme qui l'a conçu. Je ne veux pas quelque chose qui soit conçu par les hommes. Je ne veux pas quelque chose qui soit conçu par l'intelligence. Je ne veux pas quelque chose qui soit fabriqué par l'intelligence des hommes et le savoir-faire et la philosophie ou la religion en tant que système. Non! Non. Ils se sont moqués de Noé. Ils se sont moqués de son bateau. Mais cet engin a flotté. Alors que les écluses des cieux étaient ouvertes, alors que la pluie tombait telle qu'on ne l'avait jamais vue, alors que le vent de tempête soufflait, alors que le sommet des montagnes était arraché par la violence des vents, alors que les rivières gonflent de partout et que les eaux s'élèvent de partout, l'arche a tenu. C'est vrai que Dieu a employé Moïse pour la construire, mais Moïse devait la construire selon le modèle. Qu'est-ce que disait Dieu à Moïse lorsqu'il lui a donné le dessin et le plan du tabernacle? Tu feras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu n'as pas le droit de changer ma pensée. Tu n'as pas le droit de changer le modèle que je t'ai donné. Ils se sont moqués. Mais cet engin a flotté. Car il était conçu par l'architecte de l'univers. Et ils ont été sauvés. De même, la croix de Jésus-Christ, arche de notre salut, plan divin, conçu par le plus grand stratège, nous sauve de la colère à venir, nous sauve du déluge de feu qui va tomber sur le monde. Oui, la tempête est là. Qui peut dire qu'il n'y a pas la tempête? Mais voilà, on n'est pas prêt à écouter les conseils d'un prisonnier. On n'est pas prêt à écouter les conseils d'un petit prédicateur sur une estrade qui parle de Dieu. Oh, il parle de sa religion. Oh, c'est une belle philosophie. Oh, il sait bien s'exprimer, c'est pas mal. Mais enfin, bon, continue avec tes enfants, mais tu en porteras la conséquence. Tu en porteras la conséquence. On n'est pas prêt à écouter les conseils d'un prisonnier, fût-il même inspiré, un messager de justice. Dieu n'a pas confié son message à des anges, il l'a confié à des hommes. Pensant que le vent leur était favorable, les hommes, dans leur sagesse, ont levé l'ancre. Mais la sagesse de l'homme ne fait pas la gloire de Dieu. Ma sagesse est insuffisante pour vous mener au port. Pensant que le vent leur était favorable, dans leur sagesse et leur connaissance, ils ont levé l'ancre. Mais bientôt, ils ne pouvaient maîtriser le bateau. À cause des vents de tempête, à cause des vents contraires, ils sont emmenés au large, ils sont emmenés dans le nœud, dans le centre de la tempête, entraînés, qui les entraîne à la dérive. Frère, les vents te semblent favorables. Il y a beaucoup de vents de nos jours, beaucoup. Des vents qui semblent favorables. Il y a des vents qui viennent d'Amérique, des États-Unis. Il y a des vents qui viennent d'Europe. Il y a des vents qui viennent d'Afrique. Toutes sortes de nouvelles doctrines, toutes sortes de nouvelles pratiques, toutes sortes de nouveaux enseignements. On le voit. Des vents qui semblent favorables. Il y a des gens qui vous donnent l'esprit en soufflant dans le micro. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. J'ai vu ça en France, dans une réunion. Il y a des gens qui prennent leur veste et qui lancent ça. J'ai vu ça aux États-Unis. Des vents qui semblent favorables. Ils prennent leur veste, ils font comme ça, tout le monde tombe par terre. Oh Jésus. Si vous voulez du théâtre, allez au théâtre. Ne faites pas le théâtre dans l'église. Parce que je vous assure, si Dieu descend au milieu de nous, on n'a rien besoin de faire. Vous allez voir, tout le monde va être par terre. Nous ne voulons pas d'effet psychologique. Nous ne voulons pas de suggestion artificielle. Nous voulons l'authenticité d'en haut. Qu'est-ce que Dieu me demande à moi? La seule chose qu'il me demande, c'est de prêcher toute la vérité. Le reste, ça le regarde. La guérison, ça le regarde. La puissance du Saint-Esprit sur les foules, ça le regarde. Si moi, je prêche toute la vérité, si moi, je cherche la sainteté, je vis la sainteté, et je vis près de Dieu, et je suis un exemple, les autres me suivront, et Dieu confirmera. Ce n'est pas moi qui vais confirmer, c'est lui. Ah, les vents. Il y a beaucoup de vents aujourd'hui. Beaucoup, 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 beaucoup. De vents contraires. Des vents qui semblent favorables. Des idées, des pratiques, des modes, des doctrines qui semblent favorables. Et vous pensez avoir le contrôle. Vous pensez. Oui. Vous pensez, mais votre pensée est insuffisante. Votre conclusion est insuffisante. Quelle gloire recherchez-vous? Votre gloire à vous ou la gloire de Dieu? Où voulez-vous attirer les regards des hommes et des femmes? Sur vous ou sur Jésus? Vous pensez avoir le contrôle, mais bientôt, vous voilà lancé à la dérive. Vous voilà lancé à la dérive! Je me souviens, j'étais dans une église. C'était une église des Assemblées de Dieu. Il y avait un prédicateur du Nigeria qui était là. Il y avait très peu de monde. Il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être 50 personnes, rien de plus. Il avait un bon message, ce prédicateur. Maintenant, il veut prier pour les malades. Les gens viennent en ligne. Gloire à Dieu, je crois à la guérison divine. Et puis, voilà. Tout d'un coup, il est là. Il commence à hurler dans le micro. Power! C'est-à-dire puissance. Et en même temps, il met sa main sur la tête de la personne en la poussant comme cela. Paf, elle tombe par terre. Il y avait des gens pour la ramasser derrière, vous voyez. Et puis on la posait par terre. Moi j'ai dit, Seigneur, moi je ne crois pas à ça. Ça c'est du théâtre. Ça c'est du théâtre. Croyez-moi que si la puissance du Saint-Esprit tombe sur une personne, elle tombera, elle ne se fera jamais de mal. Il n'y a pas besoin d'être à peur derrière. 1, 2, dans la parole de Dieu on voit, ils tombaient sur leur face. Regardez Daniel. Regardez Ézéchiel, regardez Jean, l'apôtre. Et quand encore, quand ils ont une révélation de Dieu, l'Esprit est tombé sur eux, ils tombèrent sur leur face. Est-ce qu'il a dit que leur nez a saigné parce qu'ils sont tombés sur la face? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te demande ce qui vient d'en haut. Je te demande ce qui vient d'en haut. Les vents semblent favorables. La foule aime le spectacle. Je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais avançons. On veut imiter. C'est ce qui arrive souvent. Un autre, dans ses pratiques, ou on veut l'imiter dans son parler, sa façon de parler, sans avoir reçu l'onction. Alors, on fabrique l'onction avec des artifices. Et désormais, c'est quoi? C'est la dérive. On ne contrôle plus rien. Les vents de tempête vous emmènent à la destruction. Vous m'entendez? Plus d'esprit, mais la chair, l'esprit de Dieu, ce n'est pas le bruit, forcément. Il y en a qui confondent beaucoup de bruit avec beaucoup d'esprit. Mais non! Il y a certaines fois, c'est calme, mais l'esprit est là. Vous le sentez, vous pleurez. Vous pleurez, vous tombez sur votre face, vous tombez par terre, vous êtes là devant Dieu. Alléluia. J'ai pas besoin de fabriquer l'onction. Si elle est là, on la sent. Personne ne va la fabriquer. Mais voilà, on imite. Alors, c'est pas l'esprit, c'est la chair. Et c'est dangereux, car quand vient la chair, vient aussi la puissance de Satan. C'est dangereux. Ils font tout leur possible pour sauver la situation. On essaye, on est allé trop loin, on n'a plus le contrôle. Alors quoi? Essayons de revenir en arrière. Mais c'est impossible, la tempête est là. La Bible nous dit, ils ont ceinturé le navire avec des câbles, en le passant des câbles tout autour. C'était des grands navires en bois, Pour le rendre plus résistant, on passe des câbles et on serre les câbles. On jette la cargaison à la mer. Tout, par-dessus bord. On jette les agrès du navire, les cordages, les poulies, toutes ces choses-là qui servent au navire. On jette ça à la mer. Les voiles supplémentaires, on jette ça à la mer. Pour alléger le navire. Voilà. Paul a dit, vous auriez dû m'écouter. Oh, combien d'hommes et de femmes s'égarent, combien d'églises s'égarent, car ils ne veulent pas écouter. Plus de soleil, plus d'étoiles, des nuages sombres couvrent l'humanité. On ne voit plus le soleil de justice. Quand les nuages, la tempête, le vent qui souffle, ce soleil de justice, on l'a tellement rejeté, on l'a tellement bafoué. Il est voilé, mais il brille dans le cœur des siens. Alléluia. Tous sont fatigués. Tous sont dans le désespoir, malgré les efforts pour renflouer le navire, malgré les efforts pour contrôler l'incontrôlable. Mais c'est ta faute, tu as laissé les choses aller. Tu as accepté les vents étrangers, les contrevents. Tu as accepté, tu as cru que dans ta sagesse, tu pouvais quitter le port et aller à un endroit plus favorable. Non! Tu as compté sur ta sagesse au lieu d'écouter le conseil de Dieu. Tu aurais dû m'écouter. Maintenant, te voilà ballotté dans la tempête. Maintenant, te voilà égaré. Maintenant, tu ne sais plus où porter le regard. Maintenant, tu voudrais retenir les choses, revenir en arrière. Impossible! Ils sont fatigués. Ils perdent espoir. On ne mange même plus. Paul, le prisonnier, se lève et il prend la situation en main. Merci Seigneur pour des hommes de Dieu. Merci Seigneur pour des hommes de Dieu. Et comment commence-t-il, Paul? Il commence par blâmer. Oui, voilà, corriger. Et que dit-il? Vous auriez dû m'obéir et ne pas partir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia, il y a encore espoir. Alléluia, il y a encore espoir. Car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. Oh là là, qui est cet homme pour parler de la sorte? Qui lui donne une telle autorité? Qui lui donne d'être ainsi sûr de lui-même? D'où vient-il? Un prisonnier? Mais d'où vient cette force qu'il possède? Paul, l'homme de Dieu, devient le maître à bord désormais. Il a autorité, il parle, il commande. C'est lui qui commande désormais. Merci Seigneur pour l'élite du royaume des cieux. Même quand il y a la tempête, même quand tout est en danger, même quand tout tremble, il y a espoir lorsqu'il y a un homme de Dieu qui ose se lever et qui ose parler. Et lorsqu'il parle, qu'il dise la vérité. Une vérité qui ne sera pas toujours acceptée, peu importe, prêche-la cette vérité. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est rapproché de moi cette nuit. Merci Seigneur de ce que tu n'abandonnes pas. Il rend témoignage de son Dieu et il sait que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Au milieu de la tempête, au milieu du désarroi, au milieu de l'impossible, il déclare, il m'a dit, Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui sont avec toi. Incompréhensible. Quelle grâce, quelle vie, au milieu de cette tempête, de cette destruction, on ne maîtrise rien. Miracle, oui, miracle, il y a. Quand un homme de Dieu a le courage de prendre sa position devant les besoins. Dieu te donne la grâce à tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez courage, car j'ai foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. À cause de toi, ils seront sauvés, hommes de Dieu. À cause de ton témoignage, ils seront sauvés. Mais à une condition, qu'ils fassent ce que tu dis. À cause de toi, homme de Dieu, ils seront sauvés. Mais à la condition qu'ils fassent ce que tu dis. C'est la 14e nuit qu'ils sont ainsi ballottés sur la mer, sans voir les étoiles ni le soleil. Ballottés, secoués, frappés par le vent et la tempête, le bateau, sans aucun contrôle, plus rien. comme une épave sur la mer. Paul dit, prenez courage. Alléluia. Ô Seigneur, même quand tout va mal, même quand tout se décrépit au milieu de nous, même quand tout est un, il n'y a que la mort, la destruction, l'anarchie, le désordre, la pagaille, le pillage, il y a encore espoir. Prenez courage. Alléluia. Qui est-ce qui tient la barre de votre bateau? Dans quel navire êtes-vous? Sa force, il la puise dans son Dieu. Et il sait que tout ce qui lui a été dit s'accomplira. Tout! L'enfant de Dieu domine la situation. Le calme, la paix le caractérise. Il a confiance dans son Dieu. Il ne panique pas. Non, il ne panique pas. Il sait que tout ce que Dieu dit s'accomplit. Il sait qu'il est dans la main de son Dieu. Il sait que ce monde n'est pas son lieu de résidence. Il n'est qu'un voyageur ici-bas. Il n'attend pas une récompense du monde. Il n'attend pas une reconnaissance du monde. Il n'attend pas qu'à la fin de sa vie, on l'honore. Non, il s'attend au contraire d'être un prisonnier. Il s'attend au contraire d'être un martyr. Il s'attend au contraire au rejet. Peu importe, je suis en voyage. Et dans ce voyage, je suis aussi dans la tempête. Quelle que soit la tempête, il a confiance dans les promesses de son Dieu. Et quelles sont ses promesses? Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ô Jésus, le monde est en tempête. Frère, sœur, où vas-tu? Comme un bateau à la dérive, l'humanité est ballottée ici et là, ne sachant où elle va. On fait tout ce qui est possible pour sauver l'humanité du chaos. On fait tout ce qui est possible pour sauver le bateau du précipice. Oui, dans cette humanité se trouve l'Église. Au milieu de cette humanité, dans la tempête, se trouve l'Église. Paul, il n'était pas hors de la tempête, il était dans la tempête. Malgré leurs nombreux plans de redressement, malgré leurs grands efforts, malgré les améliorations auxquelles on arrive certaines fois, ceci est de courte durée. Les hommes sont jetés après dans un plus grand chaos, car la sagesse de l'homme est insuffisante pour solutionner les problèmes du monde. La tempête gronde. N'entendez-vous pas le bruit? N'entendez-vous pas le bruit des flots, le vacarme du vent? Qui peut maîtriser ces tempêtes? Qui peut maîtriser ces circonstances? Dites-moi un peu. Le bruit de la tempête nous effraie. Partout on voit des tueries. Regardez ce qui se passe à l'Europe, dans l'Europe de l'Est, en Yougoslavie. Malgré toutes les résolutions de l'ONU, combien de traités ont été signés de cesser le feu, et on tue encore, et on tue encore. Oh Dieu, notre continent de l'Afrique saigne de partout. Tempête sur tempête, que fait l'Église au milieu de ces tempêtes? La panique saisit les hommes. Où donc se tourner? À qui demander le secours? Ils essayent avec leurs voyants, ils essayent avec toute leur doctrine nouvelle, du nouvel âge. Ils essayent avec leurs devins, mais pas de secours. Personne ne mange. Tous ceux qui sont à bord sont sans nourriture. La consternation est sur les visages. La mort les a déjà marqués. Espoir, où es-tu? Plus d'espoir. Espérer en quoi? Dites-moi un peu. Espérer en quoi? Y a-t-il une issue? Remarquez la tempête. Paul est là aussi, dans cette tempête. Merci Seigneur pour les enfants de Dieu qui sont là au milieu de ton Église. Merci Seigneur pour l'influence qu'ils peuvent avoir au milieu de ton Église. L'enfant de Dieu n'est pas épargné dans la tempête, mais l'attitude est différente. Regardez-le, il est calme, il est paisible, il est confiant. Il sait qu'il est entre les mains de son Dieu. Il n'est que de passage, il n'est qu'un voyageur, il a une mission à accomplir. Et il sait que celui qui a le contrôle de la tempête, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Laissez les hommes chercher comme ils peuvent, dans leurs conseils, dans leurs conférences, dans leurs résolutions. Dieu n'y est jamais, jamais. Ils ont chassé Dieu. C'est pourquoi la tempête ne peut se calmer. Mais nous, nous avons Dieu. Et nous servons Dieu. Et nous avons choisi. Et même que nous soyons dans la tempête, nos cœurs sont dans la paix. Parce que nous savons qu'avec lui, nous arriverons au port. Il est un chef capable. Alléluia. Il est un chef responsable. Paul est dans la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu a voulu. Il est là par la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas détruire, Dieu veut sauver. Je t'ai donné tous ces hommes, mais seulement il faut qu'ils fassent ce que tu leur dis. La condition du salut, la voici. Oui, voilà, mais les hommes ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit. Ils ne veulent pas faire ce que les hommes de Dieu leur disent. Tous ces bateaux construits par les hommes sombres, les uns après les autres, ils coulent. Aucune sagesse, aucune intelligence humaine ne pourra garder ces navires. Non, ils vont sombrer. Tant que tu te confies en toi-même, tant que tu te confies dans ta connaissance et dans ta théologie et dans tes choses, à toi et les rudiments du monde, tu sombreras. Place ta confiance en Dieu. Il nous faut un navire surnaturel. Et ce navire, c'est la croix de Jésus-Christ, arche de notre salut. Votre navire sera détruit, suis fait par vos propres mains, et votre propre intelligence sera détruite. Mais faites ce qu'il vous est dit, et vous serez sauvés. Repentez-vous, voilà le premier commandement. Venez à la croix, voilà le deuxième commandement. Soyez réconciliés avec Dieu, voilà le troisième commandement. Il viendra, il effacera vos fautes. Votre bateau sera détruit, mais dans sa grâce, votre vie sera sauvée. Cette croix, qui aurait dit qu'elle serait le moyen de salut pour l'humanité? Ces morceaux de bois cloués ensemble, sur lesquels un corps brisé est pendu, qui aurait dit qu'il serait le moyen de notre salut? Frère, sœur, accroche-toi à ce bois, il te portera sur le rivage du salut. Fais ce qui t'est demandé, fais-le. Jette ton fardeau de péché dans les flancs. Ne cherche pas à t'accrocher à la croix avec ton fardeau de péché. Non, car ton fardeau te draguera au fond de l'abîme. Jette ton fardeau et accroche-toi à ce bois de la croix. Dans un naufrage, on ne prend rien. À peine quelques vêtements sur son dos. Et c'est tout. Jette tout. Fais ce qui t'est dit, le Sauveur t'amènera par sa croix à un rivage hospitalier, à un rivage de paix. Abandonne tout, jette tout, et il te sauvera dans le naufrage même, et tu trouveras chaleur, réconfort, vie. Souviens-toi, Dieu utilise les choses brisées. Les choses brisées, nous les jetons aux poubelles. Les choses brisées, Dieu les utilise. Baissons-nous. L'heure est déjà avancée, je ne veux pas rallonger. Tu as entendu la parole, ma sœur? Cette parole s'adresse à toi. Nous sommes dans une tempête. Tout est secoué. Tout est secoué. Au milieu de cette tempête, l'Église est là. Écoute le conseil. Tu veux être sauvé? Ton bateau va être détruit. Déjà, des morceaux s'en vont ici et là. Déjà, toutes sortes d'idées et de principes sont déjà détruits au milieu de nous, dans ce pays même. Déjà, des morceaux sont détruits. On essaye de racoler les morceaux et de faire un autre système et on dit, voilà, ça ira mieux. Non, ça n'ira pas mieux, je peux te le dire. Le malheur du monde, c'est le péché. Le péché, le péché détruit ce monde. Tout sera détruit. Ce bateau sera détruit. Que ce soit démocratie, que ce soit dictature, que ce soit n'importe quoi. Homme, femme, tu as besoin du Sauveur au milieu de la tempête. Accroche-toi à ce bois de la croix. Jette ton fardeau. Il te mènera au rivage du salut. Qui veut le salut ce matin? Qu'il se lève là où il se trouve. Qui veut être réconcilié avec Dieu ce matin? Qu'il se lève là où il se trouve. Qui veut faire la paix avec Dieu ce matin? Qu'il se lève là où il se trouve. Frère, sœur, maintenant, ce message s'adresse à toi. Qui que tu sois, la tempête est là. Tu es au milieu de la tempête. À accroche-toi à ce bois de la croix. Ton bateau va sombrer. Si tu as encore ton fardeau de péché va te drainer au fond de l'abîme. Seigneur mon Dieu, je t'apporte ces hommes et ces femmes qui se sont levés maintenant. Sauve-les! Sauve-les! Ô Jésus! Tu connais leur cœur, leur âme, leur conscience. Tu sais pourquoi ils se lèvent. C'est parce que dans leur cœur, ils savent qu'ils sont au milieu de la tempête. Et ils savent, Seigneur, que pour eux, il n'y a que destruction parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec toi. Seigneur, lave-les dans ton sang. Reçois-les à cette heure. Ô Jésus, efface leur péché. Maintenant, levons-nous tous, s'il vous
plaît. La croix, on suit-le par la foi. Et si tu tombes en chemin,
regarde à Jésus ton roi.
Regarde à Jésus ton roi.
Il est dans le lieu très saint.
Le lieu très saint.
Et il prie pour toi.
Priez pour toi.
Un jour Jésus reviendra.
Un jour Jésus reviendra.
Oh, quel immense bonheur.
Oh, quel immense bonheur.
Dans le ciel, il te prendra.
Dans le ciel, il te prendra.
Bénis-les dans ton cœur.
Il est dans ton cœur.
Oh, et maintenant,
il appelle.
Car lui seul te donne l'éternel bonheur.
L'éternel. Oh, il a donné sa vie sur la croix. On suit le.
Maintenant,
il avait
le temps. Car lui seul
te donne l'éternel. Oh, il a donné sa vie sur la croix. On suit-le par là. Oh, et maintenant.
La croix, oh, suis-le.